Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Métropolez-vous. Salutations spéciales à ceux qui écoutent cette émission pour la première fois. Le 26 mai prochain vont avoir lieu en France les élections européennes pour choisir les 79 députés qui représenteront notre pays au Parlement européen. Un scrutin qui revêt un enjeu autant national que continental, ce qui sera peut-être encore plus le cas que d'habitude cette fois-ci. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'Union européenne et les institutions européennes en général ne sont pas que des élections tous les 5 ans, ce sont aussi des décisions, des directives, des programmes qui ont des conséquences sur l'économie, l'emploi, l'environnement et la vie quotidienne au sens large du citoyen européen. Un certain nombre d'entre elles nous concernent directement dans la métropole toulousaine, même si nous n'avons pas toujours connaissance. Il fallait donc leur consacrer une émission de Métropolez-vous à quelques semaines des élections du 26 mai. C'est pourquoi ce numéro a été intitulé « La métropole toulousaine et ses relations avec les institutions européennes ». Pour partir à la découverte des institutions européennes et de leurs relations avec la métropole toulousaine, nous recevons aujourd'hui Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale et cofondatrice de la Maison de l'Europe Toulouse-Occitanie. Bienvenue madame et merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce numéro. Pour mieux faire connaissance à la fois avec vous et avec l'établissement que vous représentez, je vais commencer par vous demander une petite présentation de la Maison de l'Europe Toulouse-Occitanie. Quand a-t-elle été créée? Quels sont son statut et son objet, ses missions et ses activités? En bref, dites-nous tout.
Eh bien bonjour et d'abord merci pour votre invitation. Je vais essayer de tout vous dire, mais surtout d'être brève. La Maison de l'Europe existe depuis 1986. Comme vous le voyez, elle n'est pas jeune. Elle n'est pas seule non plus, puisqu'il y a des Maisons de l'Europe en France et en Europe. C'est une association, loi 1901. Son objectif, c'est l'information, la formation et l'animation européenne. Vaste programme, on en parlera je pense. Et son conseil d'administration est basé sur des membres d'honneur qui vont du préfet au recteur en passant par le maire de Toulouse, président du conseil régional, général, etc. Les consuls européens présents à Toulouse. Et puis des associations fondatrices ou pas comme le Goethe-Institut, l'Institut Cervantes, le Centre Régional d'Information Jeunesse, enfin tous les organismes culturels qui travaillent avec l'Europe.
Est-ce que vous êtes financé essentiellement par l'Union européenne, un programme européen, quelque chose comme ça?
Alors d'abord, il faut savoir, et ça sera le premier principe de base pour nos auditeurs qui seraient intéressés, l'Union européenne ne finance jamais rien à 100%. Donc en effet, nous avons un financement européen que nous obtenons par appel d'offres, c'est-à-dire qu'il ne va pas de soi et c'est ce qu'on appelle un cofinancement qui nous aide à réaliser nos actions, en effet.
Alors votre zone d'action, parce que c'est Maison de l'Europe, Toulouse-Occitanie, est-ce que ça veut dire que vous avez une zone sur toute la région ou c'est quand même un peu plus resserré que ça parce qu'il y a d'autres Maisons de l'Europe dans la région Occitanie?
Alors bien entendu, nous n'avons absolument pas la prétention, n'est-ce pas, en étant une petite structure associative, de couvrir l'ensemble de l'Occitanie. Simplement, pour nous situer aussi par rapport, je dirais, à la fois à nos collègues au niveau national mais aussi européen, nous représentons une région qui mène dans l'Occitanie, de la même façon que la Maison de l'Europe de Montpellier s'appelle Maison de l'Europe de Montpellier Occitanie. C'est une marque de reconnaissance, si vous voulez, la ville et la région. En réalité, en effet, vous avez raison, nous avons 3 départements de référence. Bien sûr, nous agissons beaucoup sur Toulouse et Toulouse Métropole, mais aussi dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne.
Vous proposez des formations aux citoyens, des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Il y a des cours de langue, il y a des cours pour comprendre comment fonctionnent les institutions européennes?
Alors, cours de langue, ça, je dirais que c'est ce qui nous permet à la fois eh bien, d'avoir ce qu'on appelle cette fameuse contrepartie, puisque, vous le savez, les subventions sont de plus en plus difficiles hein, pour les associations.
J'ai cru
et
comprendre.
Pour nous, cela participe de la communication en Europe. Bon, le fait que je sois linguiste de formation à la base fait qu'en effet, nous avons depuis très longtemps mis en place ces cours de langue. Je n'enseigne pas, mais pour moi, c'est très important de pouvoir communiquer en Europe. Deuxièmement, nous ne faisons pas de cours pour les citoyens. Il y a des universités pour cela ou des organismes de formation divers. En revanche, nous faisons des formations plutôt, par exemple, pour les enseignants, pour les associations, pour les prescripteurs peut-être.
Voilà, mais je crois que nos auditeurs auront bien compris ce qu'était la Maison de l'Europe Toulouse-Occitanie et ses activités. Merci pour cette présentation. Nous reviendrons aux institutions européennes un peu plus tard, puisque nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité métropolitaine grâce à Corinne Saint-Félix et à son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Une information qui concerne la collecte des déchets pour commencer ce flash. Toulouse Métropole, qui assure le ramassage et l'élimination des déchets, a entrepris d'harmoniser sur l'ensemble de son territoire l'organisation des collectes.
Oui, pour la commune de Toulouse, la collecte des ordures ménagères, c'est-à-dire les bacs gris à couvercle vert, sera désormais effectuée deux fois par semaine au lieu de trois, à l'exception du centre-ville élargi et de l'hypercentre. En raison d'un mouvement social, la collecte des bacs d'ordures ménagères n'a pas pu avoir lieu sur la commune de Toulouse ce lundi, les éboueurs se sont mis en grève illimitée. La collecte de tri sélectif, c'est-à-dire les bacs bleus, fonctionne quant à elle normalement. Un changement de rythme dû à un constat sur les trois collectes d'ordures ménagères hebdomadaires proposées sur Toulouse. Le premier jour de collecte est majoritairement utilisé par les habitants avec 60% de bacs présentés. A contrario, les taux de présentation des bacs sont plus faibles sur les deux autres jours de collecte. Depuis 2016, 12 communes ont bénéficié d'une adaptation des fréquences de collecte et d'une réorganisation des jours de passage. Ce changement s'inscrit dans le cadre du plan climat air énergie territorial adopté en 2018 en même temps qu'un programme d'action sur l'amélioration de la qualité de l'air.
Les transports et déplacements maintenant, les collectivités sont unies pour mettre en œuvre de nouvelles solutions dans le cadre des mobilités et de la décongestion de l'aire urbaine toulousaine.
Oui, il a été partagé la nécessité d'amplifier tous ensemble les efforts de développement des transports en commun en impliquant les collectivités intervenant sur une échelle départementale élargie plus conforme au flux domicile-travail actuel. Avec un constat évident, la congestion automobile atteint des proportions insupportables pour les habitants du fait de l'attractivité croissante de l'agglomération toulousaine et d'un étalement urbain qui favorise la voiture particulière. Les solutions à mettre en place doivent s'appuyer, lorsque la possibilité existe, sur l'optimisation des usages des réseaux existants. C'est le cas avec les lignes de métro, de bus et de tramway, la densification des circulations ferroviaires, l'incitation aux mobilités partagées ou encore le développement des mobilités douces. Les initiatives portées en ce domaine par le projet Commute porté par l'Europe doivent inspirer des réponses. Au niveau local, il a été décidé d'accélérer la mise en œuvre de projets opérationnels concrets tels que l'articulation de lignes TER périurbaines mieux cadencées, la création de voies réservées aux autocars ou encore le développement d'incitations au covoiturage.
Et puis pour terminer, du nouveau sur le front de l'emploi que l'Union européenne vient soutenir dans la métropole toulousaine.
Et ce, à travers le PLI. Il est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national Emploi et inclusion 2014-2020. Le Fonds social européen est l'un des quatre fonds européens structurels et d'investissement qui comprend le FSE, le FEDER, le FEADER et le FEAMP. Pour la période 2014-2020, l'Union européenne s'est fixé 5 objectifs à atteindre. Ils concernent l'emploi, la recherche et l'innovation, le changement climatique et l'énergie, l'éducation, l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté. La dotation pour ce programme est de 2,8 milliards d'euros au niveau national et près de 181 millions d'euros pour l'ancienne région Midi-Pyrénées. Le plan local pour l'insertion et l'emploi mobilise des moyens qui contribuent à l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi de longue durée via la mise en œuvre de parcours individualisés vers l'emploi. À l'initiative de Toulouse Métropole, en partenariat avec la communauté d'agglomération du Sicoval et le concours financier du Fonds social européen, le PLI travaille en lien étroit avec l'ensemble des acteurs de l'insertion, de l'emploi et de la formation. Le territoire d'intervention du PLI couvre le périmètre de Toulouse Métropole, soit 37 communes, et celui de la communauté d'agglomération du Sicoval, soit 36 communes.
Voilà, c'était donc le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix et Geneviève Saint-Hubert. Peut-être que vous aurez une réaction et quelques précisions à donner concernant la dernière information de ce flash, celle qui concerne le soutien de l'Union européenne à l'emploi dans la métropole toulousaine et plus largement dans notre pays.
En effet, il y a des grands sujets, ça a été rappelé, de grands enjeux qui sont soutenus par des fonds, hein, le Fonds social européen, Fonds européen de développement régional, etc. Et celui qui soutient le plus tout ce qui concerne la formation, l'emploi, c'est bien sûr le FSE, mais ça peut être aussi le FEDER au travers d'infrastructures ou des choses comme ça. En ce qui concerne Toulouse Métropole, oui, il y a énormément d'argent qui est mis, ça a été rappelé, hein, et l'objectif, bien entendu, eh bien, c'est ce qu'attendent tous les Français, tous les Toulousains, tous ceux de la métropole, c'est-à-dire avoir du travail, faire des études à leurs enfants, et puis qu'ils trouvent un débouché. Ça, c'est très important, et il est à noter que l'Union européenne soutient, par le biais non seulement de programmes, mais de fonds très importants, cette inclusion sociale.
Alors, on expliquera tout à l'heure les fonds, les programmes européens, parce que tout ça peut paraître complexe vu l'extérieur, ça n'est pas tant que ça. Vous allez nous donner des détails, en tout cas, merci pour ces premiers compléments d'information et ces précisions. Nous allons maintenant poursuivre cette émission consacrée, je le rappelle, aux relations de la métropole toulousaine avec les institutions européennes.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
C'est la suite de Métropole et vous avec notre invitée Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale et cofondatrice de la Maison de l'Europe Toulouse-Occitanie. En préambule, je voudrais vous poser une question d'ordre général qui me paraît légitime et même nécessaire d'aborder dans cette émission. D'après votre expérience personnelle, quel degré de connaissance ont des institutions européennes, de leur fonctionnement et de leur mission, la plupart des citoyens de notre pays ? Et je pense avant tout à l'Union européenne.
Comment dire ? C'est plus qu'une expérience personnelle, c'est une expérience d'une trentaine d'années, c'est à peu près ma cinquième élection européenne, n'est-ce pas ? Donc autant dire que j'en ai couvertes plusieurs, le niveau est toujours aussi faible. À quoi cela tient-il ? Eh bien, je dirais que c'est la même chose que pour les institutions françaises. Lorsque nous faisons de la formation sur les institutions européennes, très souvent, il m'arrive de faire des comparaisons avec les institutions françaises. Et lorsque je demande, par exemple, en parlant du Comité économique et social européen, et que je dis ça a été calqué comme bon nombre d'institutions, d'ailleurs, hein, nous sommes les Français assez inspirateurs, vous le savez, à
modèle,
ce niveau-là,
en tout cas.
Eh bien, personne ne sait ce que fait le Comité économique et social au niveau de la France, bien entendu, donc ça commence comme ça.
Oui. Est-ce que l'Union européenne n'est pas vue avant tout comme une espèce de monstre technocratique qui coûte beaucoup plus qu'il ne rapporte à notre pays et qui crée finalement plus d'embêtements qu'il ne crée de bienfaits ?
Alors ça, je dirais que c'est dû à une posture des politiques, hein, on va dire les choses très clairement, en France depuis des décennies. C'est-à-dire que l'adage « quand c'est bien, c'est moi qui l'ai fait » et « quand c'est pas bien, c'est la faute à l'Europe », on a entendu ça pendant des années. Ce qui diverge parce que nous ne sommes pas tous pareil en Europe, et heureusement, avec par exemple les Espagnols qui sont rentrés en 86 et dont la fierté d'un maire pouvait être de mettre, même s'il n'avait pas obtenu de fonds européens, un drapeau européen devant la commune en disant projet financé par. Vous voyez les deux extrêmes qui sont là, mais en tout cas, nous payons maintenant, je pense, cette posture qui fait que les citoyens ont évolué avec cette idée que l'Europe, ce n'était que tracas et embêtements, comme vous dites.
Alors, c'est que l'image de l'Union européenne peut différer suivant les catégories socio-professionnelles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger cette mauvaise image de l'Union européenne dans beaucoup de catégories de la population française ? Ce serait de la communication, ce serait de la formation, ce serait plus d'explications ?
Tout commence à l'école. Hein. Je le disais tout à l'heure, moi, mon combat, c'est ce que j'appelle l'éducation civique européenne, mais on a déjà supprimé l'éducation civique tout court, à bien des endroits, supprimée. C'est dans les programmes, mais aller demander à des jeunes ce qu'ils apprennent en éducation civique, souvent, c'est le cours qui va être sacrifié parce qu'on est en retard sur les programmes. Donc, si l'on n'apprend pas l'Europe à l'école, je sais qu'on l'apprend en troisième et en première, eh bien, on a une vision, on n'a pas de vision, d'ailleurs, du tout. En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, c'est aussi parfois ambigu. Regardez les agriculteurs. Sans la PAC, sans la politique agricole commune, il n'y aurait plus d'agriculture en France. En revanche, un dernier exemple, les étudiants qui bénéficient d'Erasmus ont plus d'ouverture, plus d'opportunités de savoir ce que fait l'Europe, ailleurs que chez eux d'ailleurs. Et là, on est un petit peu plus dans la compréhension.
Alors, je vais vous donner justement l'occasion de faire un petit peu de formation. Rappelez-nous rapidement ce que sont les principales institutions européennes, leur fonctionnement et leur mission.
Alors, je vais essayer de faire très court et assez clair. L'Europe décide à deux niveaux et pas trois. On a souvent l'habitude de dire que la Commission européenne, cette espèce de chose qui vient nous dire comment faire les fromages ou le chocolat chez nous, en réalité, elle ne décide rien. La Commission européenne, elle va impulser les lois, c'est elle qui les écrit et qui les met sur la table. Et lorsque c'est voté, nous allons voir par qui, elle les met en œuvre. Et c'est pour ça qu'elle est pénible, car elle contrôle. Et donc, quand ça se passe pas bien, elle tape sur la table. Les deux institutions majeures qui votent les lois en Europe, ce sont le Parlement européen, ça je pense qu'on peut le comprendre facilement puisqu'il y a un parallèle avec notre Parlement, hein, même si c'est Assemblée-Sénat chez nous. Et puis, il y a donc les États membres, car nous décrions l'Europe très certainement, n'oublions pas que ce sont les impulsions que donnent les chefs d'État et de gouvernement que nous élisons dans chacun de nos pays qui donnent l'orientation de l'Europe. Donc, pour être clair, les lois sont votées par le Parlement et le Conseil, qui sont les chefs d'État, le Parlement, nous allons élire nos députés le 26 mai, et la Commission européenne, que l'on pourrait comparer à une espèce de gouvernement, eh bien, elle met les propositions sur la table, elle les amende si jamais au milieu, et elle les met en œuvre.
Comment ces institutions sont-elles financées? Parce que ça, c'est une autre question que se posent beaucoup de citoyens. Comment ces institutions sont-elles financées et comment est redistribué l'argent qu'elles collectent?
Alors, deux aspects. Comment est abondé le budget européen? De quoi est-il fait? Eh bien, tout simplement, en effet, les États membres, chacun, selon leurs revenus, hein, tout ça est très calibré, le nombre d'habitants, la richesse, etc., vont venir abonder, comme on dit, le budget européen. Comment est-ce que l'argent repart? Chaque pays, une fois qu'il a mis au pot, va aller avec ses projets. Alors, ces projets, ils vont partir de Toulouse, puis Toulouse Métropole, puis la Haute-Garonne, puis Occitanie, et chacun va aller donc au niveau de la préfecture. Chaque préfecture, représentant de l'État, va porter au gouvernement ce qu'il souhaite. Je veux faire un pont, je veux créer ça, etc. J'ai besoin de tant d'argent. Et chaque pays va amener à Bruxelles son projet national, et c'est là que se font les arbitrages, bien entendu. Et la solidarité européenne fait jouer tout son appareil en disant « Bon, mais voilà, tel pays va mettre tant, mais il a besoin de beaucoup de choses. » Vous savez que nous sommes les plus gros receveurs de fonds pour la PAC, par exemple. Puis d'autres, ce sera le social. Les nouveaux pays, ça va être une espèce de mise à niveau qui n'est pas encore faite pour les 10 nouveaux entrants, etc. Donc, vous voyez, chacun met au pot et ça ressort, mais selon les besoins de chacun, évidemment, avec d'énormes arbitrages qui sont faits. Deuxièmement, vous me posez la question des institutions. Si je vous dis que l'ensemble des institutions, il y a donc Parlement, Commission, mais il y a aussi le Comité des régions, il y a tout un tas d'institutions, il n'y a pas que les trois qui ont été nommés, le Conseil, etc., eh bien, les fonctionnaires européens, toutes institutions confondues, sont moins nombreux que ceux de la ville de Paris, c'est-à-dire les fonctionnaires de la ville de Paris. Et l'ensemble des institutions, administrations, tout ce qui est relié à ça, n'atteint pas 5% du total du budget de l'Union européenne. Donc, effectivement, les personnes qui disent qu'ils viennent manger tout le budget européen, vous comprenez bien que les chiffres, très vite, leur donnent tort.
Et dans quel domaine intervient l'Union européenne? Vous en avez cité quelques-uns. En premier, l'agriculture, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'elle intervient dans tous les domaines, sauf la défense? Ça, on sait, il n'y a pas de défense européenne.
Évidemment, pas tous. On n'a pas le temps, là, vous le disiez, on ne fait pas un cours. Mais grosso modo, tout ce qui va concerner l'emploi, les droits sociaux, le climat, l'environnement, la gestion des frontières, ça, très important. Alors, nous parlons Brexit, pas Brexit, nous n'y revenons pas. Mais aussi la santé, l'alimentation, tout ce qui est de l'ordre des normes. Hein. Vous savez qu'on a des normes très importantes pour la santé des Européens. Et puis, tout ce qui va concerner la sécurité, le terrorisme. Nous n'avons pas d'armée européenne, mais nous avons des moyens de lutter contre le terrorisme.
Et puis, il y a la culture aussi, on l'a pas cité.
Alors, bien entendu, tout ce qui est culture, bien sûr, on pourrait en citer d'autres, mais tout ça pour bien faire comprendre que c'est la vie quotidienne des Français qui est quand même tout à fait concernée par ce que fait l'Europe pour leur bien.
Alors on en arrive à l'objet de cette émission. Quelle relation ont les régions et les métropoles françaises avec les institutions européennes? Est-ce que dans chaque région, dans chaque grande métropole française, Il y a un élu, évidemment, il y a un relais, il y a un service qui a des liens privilégiés, réguliers avec l'Union européenne.
Bien entendu, chaque grande métropole française a un service des relations internationales et européennes qui s'appelle différemment, certainement, selon les villes. Et je rappellerai qu'en 1992, lors du traité de Maastricht, hein, ce fameux traité qui a instauré à la fois la citoyenneté européenne et mis les prémices de l'euro, a été créée une institution qui s'appelle le Comité des régions. Et ce comité des régions est très important parce que, justement, il permet, à côté des États, de pouvoir réfléchir à une échelle plus proche des citoyens, c'est-à-dire régions, mais aussi, évidemment, communautés de communes, métropoles.
Voilà, donc il y a des programmes, des financements européens qui peuvent intéresser directement une métropole comme Toulouse, c'est-à-dire que le lien se fait directement.
Alors, tout ça ne va pas se faire via le comité des régions. Le comité des régions, c'est une instance qui va réfléchir collectivement, qui peut même proposer des lois, des directives à la commission pour qu'elles soient votées effectivement après par le Parlement et le Conseil. Mais il y a, on a évoqué les fonds structurels qui sont ces grandes masses financières qui correspondent aux grandes politiques européennes. Et ensuite, il y a des programmes plus réduits, auxquels également aussi peuvent s'intéresser les métropoles, parce que selon les sujets, ça peut être les jumelages, ça peut être l'environnement, etc. Mais à une échelle plus quantifiée, on va dire, bien entendu, ils peuvent s'intéresser, faire des demandes de financement et participer.
Quels programmes ou quels fonds européens peuvent concerner une métropole comme Toulouse ? Est-ce que vous avez des exemples de projets métropolitains qui ont été financés en partie par des programmes européens ?
Oui, bien sûr, il y en a tellement que vous dire. Je citerai le programme Commute, hein, qui est certainement un des plus connus, hein, qui vise à réduire la congestion routière sur la zone aéroportuaire, qui a quand même été doté de 5 millions d'euros par l'Union européenne.
On en a parlé
européenne.
Récemment avec Jean-Michel Latte dans cette émission.
Voilà. Ensuite, il y a le plan AirClimat. Énergie, vous l'avez évoqué dans votre journal. Hein. Donc ça vise quoi ? Ça vise pour Toulouse, qui s'est donné l'objectif en clair d'être une ville, une collectivité à énergie positive en 2030. Là, ce sont des choses énormes qui vont viser la rénovation des logements, les aménagements urbains, les comorbidités, la production d'énergie renouvelable. Vous voyez que là, on touche à la vie quotidienne des Toulousains, bien entendu. Je pourrais en citer d'autres, mais ce que je peux citer, c'est le nombre de millions, n'exagérons rien, que Toulouse Métropole a reçu entre 2015 et 2017. Il s'agit quand même de 43 millions d'euros. Donc, il est évident que on communique peut-être pas assez là-dessus, mais les Toulousains, les métropolitains de Toulouse Métropole doivent savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau culturel, scientifique, énergétique pour eux.
Ça peut intéresser certains qui nous écoutent, notamment des gens qui sont dans des associations. On dit que monter un projet dans le cadre d'un programme européen, quelque chose de long, de compliqué, de lourd à suivre ensuite, parce que lorsque le dossier est retenu, il faut suivre, il faut justifier de l'utilisation des fonds que l'on reçoit. Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Je ne vais pas contredire ce que vous dites, simplement je dirais c'est un état d'esprit. Si on a un bon projet, qu'on trouve la bonne ligne financière, en effet, c'est comme tout projet. Quand on répond à un appel d'offres local, on est soumis à des règles, on les suit, c'est contraignant, on remplit les dossiers et on les suit. C'est de l'argent public et l'argent européen est également de l'argent public. Donc, à quel titre devrait-on être plus laxiste pour contrôler l'argent public parce que ce sont des fonds européens ? Vous avez évoqué, certes, la difficulté. C'est vrai que si on est un enseignant et qu'on n'a pas un staff qui peut monter le dossier Erasmus ou d'échange, etc., c'est compliqué, c'est vrai. Mais c'est aussi un apprentissage. Nous sommes soumis aux mêmes règles. Hein. Nous, Maison de l'Europe, on veut un dossier, on remplit un dossier, on essaie d'avoir l'argent et quand on l'a, on fait notre projet au mieux, on rend compte et on fait un suivi. C'est comme ça, en effet. Mais il y a aussi, et c'est ça la bonne nouvelle, des structures qui peuvent aider.
Justement, est-ce que vous faites partie des structures qui peuvent aider lors du montage d'un dossier qui va être présenté pour être éligible dans le cadre d'un programme
Alors,
européen ?
Je dirais que la Maison de l'Europe a un rôle plutôt d'orientatrice ou d'orientateur.
C'est-à-dire
que lorsqu'on vient nous voir, selon la nature du projet, on va pouvoir dire tout de suite dites non, alors là, c'est pas européen, parce que je prends toujours l'exemple, une troupe de théâtre, ça n'existe plus beaucoup, mais à l'époque où le programme culture commençait à prendre forme, on avait une troupe de théâtre qui était venue nous voir en disant, voilà, notre ingénieur du son est italien et l'éclairagiste est allemand, la pièce est anglaise, c'est de l'européen. Non, on peut pas être financé. Voilà. Donc, la première chose à savoir, c'est est-ce qu'on est éligible ou pas. Et à partir de là, nous pouvons en effet donner les bonnes adresses, les bons relais. Nous-mêmes n'avons pas la capacité de pouvoir monter les dossiers, mais il m'est évidemment souvent arrivé de relire quelques projets, bien sûr. Mais il y a des organismes, et plus, évidemment, on va toucher à des choses compliquées, hein, je parle même pas du scientifique, hein, mais et plus il va falloir avoir des relais importants. Il en existe aussi au niveau de Toulouse Métropole.
Voilà. Alors, je sais que vous menez des actions en commun avec la métropole, qui est une collaboration proche, régulière, mais aussi des actions sans doute avec des communes de la métropole, peut-être avec des entreprises, des associations. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes?
Oui, alors nous agissons depuis très longtemps, enfin bien avant que Toulouse Métropole existe, déjà avec la ville de Toulouse. La première chose et le premier sujet, c'est la journée de l'Europe le 9 mai. Donc ça, c'est la fête de l'Europe, et depuis que nous existons quasiment et qu'elle existe, 1985, et nous c'est 86, donc nous avons fêté l'Europe sur la place du Capitole tant que cela était possible. Puis ça a évolué. Maintenant, on est sur d'autres principes, hein, qui sont tout aussi intéressants et qui sont démultipliés vu qu'on est avec 37 communes. Donc nous agissons autant à Toulouse que, par exemple, à Tournefeuille, qui chaque année fait quelque chose d'énorme avec les scolaires. Nous allons, depuis 2 ans, à Saint-Aurens. Nous serons le matin du marché de plein vent avec un stand, une expo, etc. Enfin, j'ai été invitée à Balma récemment pour parler au niveau du camp à 8 maires et tout un tas d'associations, des élections, mais aussi des projets. Et justement, ce que vous évoquiez, où est-ce qu'on s'adresse quand on a un projet? Je pourrais en citer plein d'autres. Pêche-Bonnieu, nous sortons d'un très gros projet qui s'appelle Euromobile pour l'information des citoyens et aussi de personnes en situation de handicap sur les élections. Et nous avons sillonné quelques communes de Toulouse Métropole aussi à ce sujet.
La prochaine actualité de la Maison de l'Europe dans les semaines à venir, c'est quoi? Il y a les élections européennes, il y a la Semaine de l'Europe, organisée avec Toulouse Métropole d'ailleurs.
Je dis quand même l'actualité immédiate qui nous occupe au moment où nous parlons, c'est que mes collaborateurs sont à l'école de la deuxième chance au Mirail pour former des élèves qui vont partir en Erasmus+, très bientôt, et donc pour les former, ce qu'on appelle ça une formation au départ. Donc ça, c'est l'actualité immédiate. Et ensuite, en effet, au-delà des élections européennes, il y a cette Semaine de l'Europe à laquelle nous participons depuis toujours, avec 2 journées à la Cité de l'Espace, avec d'autres associations. Et quelque chose que l'on tente pour atteindre un public un peu plus branché, on va dire, ou jeune, nous allons faire un happy hour dans un bar de Toulouse et nous lancerons un concours photo Facebook.
Alors, juste pour préciser, la Semaine de l'Europe, ça dure 2 semaines en fait, c'est du 3 au 19 mai.
Tout à fait, nous avons d'autres actions bien sûr, mais je ne détaille pas tout.
Eh bien, c'est la fin de ce numéro de Métropole et vous, auquel je vous remercie infiniment d'avoir participé, Geneviève Saint-Hubert. Il fallait vraiment une invitée comme vous pour pénétrer et comprendre l'organisation et le fonctionnement, il est vrai un peu complexe, des institutions européennes et leurs relations avec les métropoles des États membres, Toulouse en tête. Nous avons pu constater qu'un certain nombre de programmes européens concernent ou peuvent concerner les projets de la métropole toulousaine. Merci également de nous avoir présenté l'établissement dont vous êtes secrétaire général, la Maison de l'Europe Toulouse-Occitanie, ainsi que les services et activités qu'ils proposent aux citoyens. J'invite tous ceux qui veulent en savoir plus sur la Maison de l'Europe à se connecter à son site internet www.europe-toulouse.eu. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.